Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, c'est le cinquième épisode, La cantatrice et le poète, une histoire franco-brésilienne. Je rêve à toutes les étoiles et elles en font autant. Il n'y a pas de temps à perdre. Tout cela va éclater. Nous sommes perdus, nous sommes perclus. Soupirer ou regarder, pas du tout, je ne rêve plus et je m'en vais. Nous ne sommes pas perdus. Benjamin Perret, le passager du transatlantique 1921. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau périple plutôt surréaliste, quelque part entre la France et le Brésil, en compagnie du poète français Benjamin Perret et de la cantatrice brésilienne Elsie Houston. Elsie Houston qui résume à elle toute seule les carrefours des Amériques. Pour raconter l'histoire de Benjamin Perret et d'Elsie Houston, il nous faut d'abord évoquer ces musiques à la découverte desquelles ils vont partir tous les deux et qui ont fasciné les premiers grands voyageurs français au Brésil au XXe siècle, à commencer par Darius Milhaud et Blaise Sandrart, c'est-à-dire les musiques de l'univers afro-brésilien de la samba. On devrait dire le samba ou samba comme au Brésil. Mais trop tard, le samba brésilien est devenu trop féminin en Europe, sauf en Allemagne d'ailleurs, et dans nos émissions francophones, eh bien, nous allons lui garder toute sa féminité. Le mot samba existe en réalité dans plusieurs pays d'Amérique latine, notamment à Cuba et dans le Rio de la Plata. Un mot dont l'étymologie ramène toujours à l'univers afro-américain. Au départ, au Brésil, samba désigne simplement une fête et non pas un genre musical. On dit « vamos sambar », on va faire la fête. En réalité, tout a commencé par son ancêtre, le batuque, un mot par lequel les esclaves venus d'Angola désignaient leurs festivités en général. Vers 1880, les rythmes et les danses des esclaves ont commencé à être interprétés par des blancs dans ce qu'ils ont appelé eux aussi des batuques. Entre autres, ces danses du nombril contre nombril, azumbigadas, issues des danses bantoues d'Angola. Et dans ces batuques, les instruments venus d'Europe se mettent à dialoguer avec les grands tambours afro-brésiliens, les maracas et les marimbas. Ce sens générique du mot batuque a été utilisé jusqu'au début du XXe siècle et il est même entré dans les salles de concert, avant de céder la place au mot samba. Le batuque le plus célèbre est encore aujourd'hui au Brésil celui du pianiste et compositeur Ernesto Nazaré, qui le met à son programme quand en juin 1926, alors qu'il a 63 ans, il est invité à donner des récitals pour la première fois à São Paulo, au Conservatoire de musique, comme un des grands virtuoses qui s'y produisaient. Thank you. Batuk et d'Ernesto Nazareth par Sonia Rubinsky, une des grandes pianistes brésiliennes d'aujourd'hui. Peu à peu dans les villes, le batuk adopte les danses de salon d'origine européenne comme la valse, la polka et la chanson dite modinha venue du Portugal dans la première moitié du 19e siècle. Et il fusionne avec elle. Le batuk crée ainsi un nouveau genre afro-brésilien de musique et de danse qui garde les umbigadas des danseurs, qui se rapproche jusqu'à se frôler le ventre et qui les combine avec les claquements de doigts, les bras levés, les mains à la taille, typiques des danses ibériques comme le fandango espagnol. Et ce nouveau genre musical et chorégraphique va prendre le nom d'une ancienne danse d'Angola et du Congo, le lundu. Le lundu qui est donc le grand-père de la samba. Comme le batuque, le lundu est devenu très vite un genre musical qui est entré lui aussi au répertoire des concerts, comme celui-ci, retrouvé au Brésil entre 1817 et 1820. La claveciniste Rosana Lanzelotti et l'ensemble Vox Brasiliensis dirigé par Ricardo Canji. Les premières partitions de Lundus chantées ont été imprimées à partir de 1830. Et à la fin du 19e siècle, ce nouveau Lundu est même devenu une chansonnette comique dans les théâtres de revues musicales. Et puis il va être supplanté à son tour par une danse que Darius Milhaud a beaucoup utilisé à son retour en France en 1918, le machiche. Drôle de nom. Ça s'appelle M-A-X-I-X-E. Le compositeur Villa-Lobos a trouvé, disait-il, une explication. Il a rencontré un jour un octogénaire qui lui racontait que le machiche avait pris le nom d'un certain monsieur Machiche, ce qui pourrait être un patronyme d'origine slave. En 1880, ce monsieur Machiche assiste au carnaval et il voit défiler un groupe d'étudiants bariolés qui dansent un lundu avec une telle volupté et une telle insolence qu'ils les félicitent pour cette nouvelle chorégraphie. Une danse qu'ils avaient pratiquée déjà dans les bouges des quartiers malfamés de Rio. Une danse à laquelle ils donnent le nom de leur admirateur, Machichi. Et même si cette histoire n'est qu'une fantaisie de Villa-Lobos, elle est trop belle pour ne pas être racontée. Dans le machiche, contrairement au lundu, les couples dansent enlacés et la musique est exclusivement instrumentale. Le machiche, fils du lundu, est ainsi devenu le père de la samba. C'est une danse plus moderne, urbaine et internationale, apparue vers 1870 comme le choro, quand les couples s'étreignent en dansant les valses et les polkas venues d'Europe. Não mexe comigo, ne fricote pas avec moi. Un machiche d'Eduardo Soto, Clara Werner au piano. C'est ainsi que le machiche est devenu au début du XXe siècle la danse nationale brésilienne. C'est dans une opérette de Chiquinha Gonzaga, grande dame de la musique populaire à Rio de Janeiro, que le machiche est sûrement monté pour la première fois sur la scène d'un théâtre. C'était en 1895 dans son opérette Zizinha Machiche, la chère tante Machiche, et il s'agissait d'une variante intitulée Cortajaca. Et ce Cortajaca avait obtenu un énorme succès, d'autant plus qu'il avait fait scandale. C'est l'indicatif de notre émission et il est ici interprété par un orchestre de choros. Le célèbre Cortajaca de Francisca Gonzaga par l'ensemble du flûtiste et clarinettiste Abel Ferreira. Voilà donc comment le machiche a peu à peu détrôné le lundu. Et la samba dans tout ça? Eh bien, dans le premier quart du XXe siècle, la fête de samba est plutôt limitée au monde rural, à tel point qu'à Rio de Janeiro, c'est un mot complètement inconnu. C'est le vocable fado qui désigne alors là-bas les danses des quartiers populaires. C'est à partir de 1870 que le mot samba, venu de Bahia et du Nord-Est à Rio, commence à se répandre dans la capitale avant de s'ouvrir au début du XXe siècle à tout le Brésil. La samba n'est plus alors seulement de Bahia, elle n'est plus seulement l'apanage des Noirs et elle ne désigne plus uniquement une fête, mais aussi une danse et un genre musical. C'est cette samba populaire et urbanisée qui s'est substituée peu à peu au machiche. Le succès à Rio en 1917 de la samba Pelutelefone, au téléphone, du musicien Ernesto dos Santos, qu'on appelait Donga, a marqué la naissance de la samba carioca qui est devenue, cette année-là, le rythme national par excellence. Une samba qui était née, en réalité, d'une véritable création collective, dans les maisons des Noirs baianaises près du port de Rio, comme celle de la tia Ciata, la populaire tante Ciata, qui était aussi une prêtresse du candomblé. Ces maisons étaient de véritables refuges de protection sociale, et elles étaient déjà fréquentées par plusieurs personnalités de l'élite blanche de Rio de Janeiro, et bien sûr, par les premiers grands musiciens de samba, Donga, Pixinguinha, João da Baiana et le grand José Barbosa da Silva, qui se faisait appeler Signor, Monsieur, en se riant du terme qu'utilisaient ses ancêtres pour désigner les planteurs blancs. Non quero saber mais dela, je ne veux plus rien savoir d'elle, célèbre samba de Signor. Voilà donc le Brésil que le poète Benjamin Perret et son épouse Elsie Houston s'apprêtent à connaître ou à redécouvrir avec passion dès 1929. Leur rencontre à Paris, c'est toute une histoire. Elsie est née à Rio de Janeiro en 1902. Son père est un dentiste américain du Tennessee. Il faisait partie de ces confédérés qui avaient fui au Brésil après la guerre de sécession aux États-Unis. Il s'était marié et s'était établi à Rio. Il est alors entré dans le cercle de l'élite culturelle brésilienne. C'est ainsi que dans la capitale, la famille Houston connaît le journaliste et critique d'art Mario Pedrosa. Une rencontre qui va bouleverser la vie d'Elsie et de Mary, sa sœur, puisque cette dernière va l'épouser. Vera Pedrosa, la fille de Mario, se souvient. Mon père a connu la mère d'Elsie, Elsie elle-même, Mary ma mère, et sa sœur Célina. Ça s'est passé vers 1918 dans la maison de ma grand-mère, qui s'appelait Alinda Houston, qui était mariée avec mon grand-père américain, d'où les noms de Elsie, Mary et Selina. Il les a connus car il fréquentait cette maison où il y avait une réunion littéraire et musicale moderniste avec Villa Lobos notamment, une fois par mois pour la plus importante et une fois par semaine pour la réunion plus intime. Et c'est là que Mario Pedrosa a connu Elsie. L'Undu du 19e siècle, recueilli au Brésil par deux voyageurs bavarois entre 1817 et 1820. Rosana Lanzelotti, clavecin, Caetu Marcondis, percussion et Luis Leite à la guitare. Elsie Houston avait étudié le chant en 1922 avec Lili Lehmann en Allemagne et avec Ninon Valin à Buenos Aires lors de la saison lyrique de 1924. Puis ses parents l'ont envoyé de nouveau en Europe pour étudier cette fois à plein temps avec la soprano française. En janvier 1926, elle est de retour au Brésil. Le 2 février, elle chante au Conservatoire de São Paulo et le 2 juin au Théâtre Cassino, accompagnée notamment par le compositeur Luciano Gallet, qui était presque un ami d'enfance. Au programme, les chants du Pérou, de Marguerite Béclard d'Harcourt, qu'elle avait connue à Buenos Aires avec Ninon Valin, Georges Enesco, Obradors et des compositeurs brésiliens dont Luciano Gallet. Dans la salle, l'écrivain et musicien Mario Di Andrade est enthousiaste. Il comptera beaucoup pour elle. Et avec Luciano Gallet, il va l'initier bientôt au chant afro-brésilien comme ses Pontos de Santos, ces chants rituels de la Macumba qu'elle interprète ici. Bye. Elsie Houston dans deux chants populaires afro-brésiliens au piano, Pablo Miguel.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics.
De retour à Rio, Elsie retrouve sa famille, sa mère et ses sœurs, dont Mary, qui est à présent mariée à Mario Pedrosa. Puis elle repart étudier à Paris, où elle rencontre enfin Villa-Lobos, qui l'engage pour chanter ses celestas, ses sérénades, avec l'orchestre Colonne à la salle Gaveau le 14 octobre 1926, son premier grand succès à Paris. Elle a 24 ans, elle est belle et quelle présence en scène. Entre-temps, son beau-frère, Mario Pedrosa, qui est devenu militant trotskiste, quitte le Brésil le 7 octobre 1927 pour Berlin, avec le projet de continuer son voyage en Union soviétique où il est censé entrer à l'école léniniste avec de grands dirigeants communistes. Mais à cause de sérieux problèmes de santé, il reste dans la capitale allemande où il étudie à l'université. Il lit régulièrement là-bas le journal français trotskiste Clarté. Quant à Elsie à Paris, elle voit beaucoup Villa-Lobos, qui lui fait prendre conscience de la beauté de la musique populaire brésilienne et continue à lui faire découvrir les chants afro-brésiliens. Et Nino Valin, son professeur, l'encourage d'ailleurs dans ses recherches. Elle chante ici Benoît le Petit Noir, Benedito Pretinho, qui face à la mer à Bahia se souvient avec humour des beautés et des charmantes habitantes du village qu'il a quitté.
Viatata, viatata. E ficou com seu moro, você como não me dá. Via tata, via tata. E ficou com seu moro, você como não me dá. Morena boa, morena boa. Morena, você vem da terra da Salamboa. A terra é boa, a terra é quente. A terra tem tanta coisa que a gente fica com via tata. Via tata, e ficou tão saboroso, você come não me dá. Via tata, e ficou tão saboroso, você come não me dá. Aqui tem coisa que nunca vi. Come na terra tem sururu e sapuqui. Aqui é bom, não há melhor. O Brasil é muito grande, mas aqui ainda é maior. Via tata. Via tata, e ficou tão saboroso, você come não me dá. Via tata, e ficou tão saboroso, você come não me dá. Benedito pretinho é zanado, mas pequeno, é zanado, mas ele vai, ele vem, ele torna a voltar, pequeno, é zanado, mas... Eu vou-me embora dessa terra desgraçada onde a gente não faz nada pra comer nem pra gozar. Na minha terra todo mundo é de figura, tem farinha, rapadura, tem viola pra tocar. Pretinho, azorado, malentinho. Ai, azorado, vai, ele vem, ele torna a voltar, leleu. Ai, azorado, mal. Tem mariquinha, tem chiquinha, tem direita, tem também cuscuz na mesa, com de mil e fubá. Tem sabiá, canta do sorda no terreiro, tem o Chico cabideiro pra meu cavalaria.
En 1927, Elsie Houston accueille à Paris sa mère et sa sœur Mary qui débarquent de Rio de Janeiro. Toutes les trois se rendent au journal Clarté où on leur remet des documents confidentiels qu'elles envoient en urgence à Mario Pedrosa à Berlin. Mario qui doit attendre l'année suivante pour retrouver son épouse Mary à Paris. Il se rapproche alors d'un groupe d'artistes et d'intellectuels surréalistes. Il connaît ainsi dans un café de la Place Blanche le peintre Magritte, les écrivains André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon et surtout Benjamin Perret, trotskiste lui aussi, qui entre naturellement en contact avec la famille Houston. Et il tombe aussitôt amoureux d'Elsie, qui avait la beauté et le charme des métisses brésiliennes. Sa mère était une portugaise de l'île de Madère. Le coup de foudre est tel que le mariage est célébré juste après, le 12 avril 1928, à la mairie du 7e arrondissement de Paris, et les témoins excusés du peu sont André Breton et Aitor Villa-Lobos. Quand mon père est parti en Allemagne, ma tante Elsie s'est mariée à Paris avec Benjamin Perret. Et ma grand-mère a fait le voyage depuis Rio pour la cérémonie. Et mon père aussi est allé de Berlin à Paris pour le mariage. Il fallait bien un batuque brésilien pour fêter le mariage de Benjamin Perret et Elsie Houston, et pas n'importe lequel, le premier batuque symphonique composé au Brésil. Une œuvre écrite en 1891 par Alberto Nepomuceno et Roberto Minchuk dirigeait ici l'orchestre de São Paulo. En 1928 à Paris, Elsie Houston fait éditer ses mélodies populaires et enregistre deux chants afro-brésiliens de Villa-Lobos avec la pianiste Lucília Guimarães, l'épouse du compositeur. Puis Benjamin Perret et elle partent au Brésil où ils débarquent début février 1929. Le poète entre immédiatement en contact avec les trotskistes brésiliens et devient correcteur dans les journaux. Il se passionne très vite pour la littérature et l'art moderne du pays. Et grâce à Elsie, il s'initie à l'art et à la culture afro-brésilienne. Tous deux entreprennent alors des voyages insensés au nord et au nord-est du pays entre 1929 et 1931, où ils font des recherches ethnographiques et des collectages de musique et de chants populaires. Mon père s'intéressait à tout cela. Et il y a des livres de lui sur l'art populaire. Il apprenait beaucoup d'Elsie,
Comme elle pesquisava.
Non seulement elle chantait, mais elle faisait aussi des investigations, des enquêtes.
Elle faisait levantamento. Ela ouvia as canções assim.
Elle écoutait les chants de la cuisinière. Elle assistait à des rites de Macumba. Et tous les deux recueillaient les thèmes populaires qu'ils entendaient. Elles y avaient commencé ce travail avant de le connaître, notamment pour Mario de Andrade. Elles y faisaient partie d'un milieu très moderne pour l'époque.
Goiana só se fala, golfinha, no tecido do canal, golfinha. Quem duvida vem a ver no porto só da Narritinha, na barra da Maiaia. Golfinha, Jurupanã, golfinha, Jurupanã, golfinha, Jurupanã, golfinha, Jurupanã, golfinha.
Le 17 mars 1929, Elsie Houston est à São Paulo et elle est la révélation de la soirée quand elle participe à un concert consacré à Villa-Lobos. En août, elle retrouve ce dernier à Rio de Janeiro quand il débarque de Paris avec le pianiste Thomas Terán et le violoniste Maurice Raskin pour une série de concerts dans la capitale. Puis à São Paulo, où le compositeur brésilien rend hommage à son mécène, l'industriel Arnaldo Guinly. Lors de la deuxième soirée, elles y chantent ses Celestas avec l'Orchestre symphonique de la ville. Et Villa-Lobos crée sa suite suggestive pour le cinéma, dédiée aussi à Guinly, sur des poèmes modernistes en français de Oswald de Andrade, Manuel Bandeira et René Chalut. Et les titres sont évocateurs. Ciné-journal, Croche-pied aux flics en forme de capoeira et Charlot aviateur. En souvenir, bien sûr, des soirées que le compositeur brésilien passait dans les cinémas du Quartier Latin à Paris.
Thank you.
L'ouverture de la suite suggestive de Heitor Villa-Lobos, Carl Sinclair à la tête de l'Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart. Le 9 octobre de cette année 1929, Elsie décide de se fixer à São Paulo avec son époux et elle crée une école de chant. La presse relate avec enthousiasme le concert où elle interprète de vieilles chansons françaises, des chants espagnols de Joaquín Nin, les chansons péruviennes de Marguerite Béclar d'Harcourt, son cheval de bataille, des chants des États-Unis et du Brésil, dont certains harmonisés par Villa-Lobos. Avec, pour finir, un Bumba Meu Boy du Nordeste que lui a confié Mario de Andrade. Une danse qui célèbre notamment le bœuf de la crèche de Noël. Elsie aimait beaucoup ces musiques de la région de Bahia, comme ce Cadê Minha Pombarola. Mais où est donc partie ma tourterelle?
Là, cadê minha pombarola e que fugiu lá do pombal? Lá, cadê minha pombarola e que fugiu lá do pombal? O nego Mané Caetano, o nego que tá na bola, se finela na gurita, relógio batendo hora. Eu sou aquela que digo, depois de dizer não nego, achando amor a meu jeito, morro seca e não me entrego. Lá, cadê minha pombarola e que fugiu lá do pombal? Lá, cadê minha pombarola e que fugiu lá do pombal? Dei um nó na fita verde, sacudi-te pela ponta. Saiba Deus e todo mundo que de ti não faço conta. Tomara já te ver morto, o zaribu te comendo, os ossos no tabuleiro, pela rua te vendendo. Lá, cadê minha pombarola e que fugiu lá do pombal?
En 1929, Mario Pedrosa, toujours aussi militant, est expulsé d'Allemagne et rentre au Brésil. Il y retrouve Benjamin Perret, que la police surveille aussi de très près. Au mois d'août 1931, elles y donnent le jour à leur fils, Geyser. Mais le 30 décembre, Benjamin est arrêté et embarqué de force sur un paquebot à destination du Havre. Elles y et leur bébé le rejoignent peu après. À Paris, pour subvenir aux besoins de la petite famille, la cantatrice interprète des chants populaires brésiliens et commence même sa carrière dans les cabarets. C'est à Paris qu'elle interprète pour la première fois une macumba noire qu'elle met elle-même en scène. Elle y connaît aussi le salon de Madeleine et Robert Perrier à Montmartre, où depuis janvier 1930 se retrouvent tant d'artistes comme Josephine Baker, Django Reinhardt, Le Corbusier et même le chef d'orchestre Engelbrecht. Robert Perrier était parolier de chansons et en 1932, Elsie Houston enregistre son succès « Tu m'as donné Paris », non pas avec un accent brésilien, mais avec un accent nord-américain, car elle était aussi américaine et surtout, elle s'amuse à chanter le français à la manière de la star qu'était alors Josephine Baker.
Je t'ai la paix, outro amor ancora tu m'attone Paris ah oui c'était écrit à moi je t'ai donné ma vie ah oui.
Mais à Paris, le couple de Benjamin Perret et d'Elsie Houston bat de l'aile. En 1934, ils divorcent. Elsie rentre à Rio de Janeiro avec leur fils Geyser et décroche là-bas quelques concerts, notamment à la radio Tupi. De son côté, Benjamin Perret part à Barcelone en 1936 et s'engage dans l'armée républicaine contre la sédition franquiste. En 1937, Elsie Houston décide de s'établir à New York. Elle y rencontre tout un cercle d'amis intellectuels comme Jane et Paul Bowles, qui font partie de la bohème du Village au sud de Manhattan. Ils s'investissent aussi aux côtés du compositeur Virgil Thompson, grand admirateur d'Elsie, dans le mouvement noir The Harlem Renaissance. Le 16 décembre 1937, elle chante avec un ensemble de musique populaire brésilien dans le grand salon arc-en-ciel The Rainbow Room au 67e étage du Rockefeller Center. Vêtue du costume blanc des Baianaises, elle interprète des chants du nord-est brésilien et une samba, grand succès du carnaval de 1935, implorare. Je suis fou d'avoir imploré ton amour, on ne peut implorer que Dieu. Une samba que chantait l'ancien boxeur Kit Pepe avec l'orchestre de Pixinguinha.
Foi sim meu sonho azulado, minha ilusão mais querida. Perdi o meu bem amado, minha esperança na vida. Passei a vida implorando aquela infeliz amizade. Tudo na vida se passa, loucuras da mocidade. Implorar,
implorar só a Deus. Mesmo assim às vezes não sou atendido. Eu amei e não venci. Hoje estou arrependido. Implorar só a Deus. Mesmo assim, às vezes não sou atendido. Eu amei e não venci. Fui um louco, hoje estou arrependido.
Hoje no mundo sozinho, relembrando meu passado. Não tenho mais um carinho, na vida tudo acabado. Fui um louco, eu pensei, implorei tua beleza. Pelo teu amor fiquei contemplando a natureza.
Le 22 février 1938, Elsie Houston donne un récital au prestigieux Theatre Guild où elle chante Stravinsky, Debussy, Eric Satie et les Brésiliens Guarnieri et Villa-Lobos. Elle se produisait alors pratiquement tous les soirs dans le club français de New York, l'élégant Ruban Bleu, où elle interprétait surtout des chants afro-brésiliens dans une mise en scène quasi immuable. Le journaliste Davidson Taylor raconte « Elle entrait en scène comme une reine africaine, comme une prêtresse, en réalité comme si c'était elle qui nous accueillait. Elle portait deux grands tambours et des candélabres. Elle annonçait un rituel de macumba. Les lumières s'éteignaient et elle se mettait à chanter une prière de candomblé. »
A cabeça do santo é Urussó, os cabelos do santo é Urussó, os olhos do santo é Urussó, a boca do santo é Urussó, os braços do santo é Urussó, as pernas do santo é Urussó, quá, 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 é Urussó, quá, 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 é Urussó. Oh, cadê Antônio Botoca? Oh, cadê Antônio Botoca? Manguará no copo pra chambra, de cobra pra cura, malhada todo pra inventa. Meu sobrinho disse perdoa, meu santo não mexa com a nhanha, se temos um bamba pra soa. O meu sobrinho disse é Urussó, a cabeça do santo é Urussó, os cabelos do santo é Urussó, os olhos do santo é Urussó, a boca do santo.
Peu après son arrivée à New York, Elsie avait épousé un belge fortuné, le comte Marcel Courbon. En 1939, c'est l'année du Brésil à New York et il est à ses côtés quand elle chante avec la soprano Bidu Sayão et la populaire Carmen Miranda. L'année suivante, en octobre, elle donne trois récitals au musée d'art moderne de New York à l'occasion de l'exposition du peintre brésilien Cândido Portinari. Elle est accompagnée au piano par le chef d'orchestre carioca Burly Marx. Le concert est retransmis à Rio sur la radio du ministère de la Culture et la radio Tupi. Le 15 novembre de la même année, elle chante à Détroit, avec l'orchestre de la ville dirigé par Burle Marx, triomphe éclatant à nouveau. Le 13 février 1941, c'est son dernier récital, à Town Hall à Manhattan. Dans la presse, Virgil Thompson salue l'exceptionnel talent d'Elsie Houston, capable de chanter Debussy et Satie, et d'enchaîner aussitôt avec des chants populaires des États-Unis et d'Amérique latine. Mais elle y cache une dépression très profonde et une solitude qui la ronge. Elle se suicide le 20 février 1943 dans son appartement de Park Avenue. Elle a laissé deux lettres, écrites en français, l'une à son époux Marcel Courbon et l'autre à sa sœur Mary. Benjamin Perret est retourné au Brésil en 1955 et il a séjourné au sein d'une communauté indigène. C'était 4 ans avant sa mort à Paris, le 18 septembre 1959. C'est sur ce chant afro-brésilien à l'étoile de la mer et la voix poignante d'Elsie Houston que nous nous quittons aujourd'hui. On se retrouve bien sûr dans le prochain chapitre de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet à la technique Alain Joubert, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.